Parmi les faits qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, on retient souvent la guerre d'indépendance. Et pourtant, le pays a connu d'autres conflits, dont la guerre civile dans les années 90. 150 000 morts, 1 million de déplacés et 20 milliards de dollars de dégâts. Pas de nom exact sur ce conflit, certains l'appellent la décennie noire, d'autres les années noires ou années de plomb. C'est un conflit qu'on a voulu enterrer, un conflit qu'on a voulu oublier. Et je crois que j'ai voulu faire mon devoir de mémoire. Comprendre quels sont les traumatismes qui règnent dans mon pays.
جرى عليا الفراق وصادني في البين
واش داروا هادو الابرياء رجل انت واحد مقطعين واش اللي شاف الجبنه لواس وما دارت هذه الشيء هذا لواس وما دارت هذه الشيء هذا وعلاش 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 وحنا واش درنا حنا ولا ولادنا واش دار
احنا اماتكم احنا خاوتكم علاش هكذا وعلى الجزائر هكذا وعلى بلادنا هكذا يا بلادنا
وجف جفن المناموس سهر حلالي وجرى دموع العيون من فوق الخدين.
Comment a-t-on réussi à instrumentaliser la religion? Comment le gouvernement a-t-il perdu la confiance du peuple? Nous sommes dans les années 80, et l'Algérie est plongée dans une crise économique, une crise du logement et une crise du chômage. Mais on va également retrouver des problèmes de corruption au sein du gouvernement. Le pays est sous le mandat du président Chedli Benjedid. En dessous de lui, on retrouve un parti politique unique, qui est le FLN. Le FLN, c'est le Front de Libération Nationale. Vous savez, c'est le fameux parti politique qui a vu le jour pendant la guerre d'indépendance, celui qui a tenu tête à la France. Mais à ce moment-là, le FLN et en règle générale le gouvernement n'est plus autant apprécié qu'avant. Il perd de sa popularité. On se fiche des héros de la guerre, on veut du renouveau. Et en octobre 88, le peuple algérien va descendre dans les rues pour exprimer son mécontentement, son ras-le-bol. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Des émeutes ont lieu à Annaba, Constantine, Tizi Ouzou, Alger, Oran et Béjaïa. Au total, elles font 500 morts, 15 000 arrestations et 100 000 participants. D'après Khaled Nazar, ministre de la Défense, les forces de l'ordre n'ont pas su gérer ces émeutes. Voilà pourquoi elles ont fait autant de morts.
Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tirait soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez deux projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en l'étang, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts.
La jeunesse algérienne commence à perdre espoir. Elle a besoin d'être entendue, comprise et représentée. Et quand on perd espoir, on se réfugie dans la religion, dans les mosquées et les prêches. Mais pas n'importe lesquels, ceux des leaders du FIS. Le FIS, c'est le Front Islamique du Salut, un parti politique créé par Abassi Madani et Ali Belhaj. Les deux sont professeurs à l'université et prêchent dans les mosquées des discours bien particuliers. Le FIS veut établir un État islamique. Ils veulent se débarrasser du régime politique actuel. Selon Ali Belhaj, l'Algérie n'applique pas la charia. Et si le pays n'applique pas la charia, rien ne devrait empêcher le peuple à partir en guerre. Ali Belhaj a les idées bien claires, beaucoup plus que Abassi Madani. Il s'exprime avec éloquence et sait motiver la foule. Pendant plusieurs années, lui et Abassi Madani se rendront dans divers mosquées pour y prêcher leur discours politique.
دخلنا لهذا تي معناها رانا فعلا نحبوا الصراع السياسي السلمي ولكن الصراع السياسي السلمي اذا خلاونا في الطريق اذا ما ظلموناش اذا لم يبخسونا حقنا اما اذا بس بخسونا حقنا انا ما استناش الشاذلي ولا خالد نصار ولا اي واحد اخر يقول لي انت ما ديرش الشاه تضربني انتايا وانت المعتدي ودير قانون انت بدك ومن بعد تقول لي انتايا راكم سلاح اورد لوا انا اورد لوا ايه بصح مانيش اورد للقران الكريم نتوما اورد القران الكريم واورد السنه تاع النبي صلى الله عليه وسلم.
Et ça commence à fonctionner. Leurs paroles touchent de plus en plus de monde, les plus vulnérables, les jeunes, les pauvres, ceux qui ne peuvent plus se voir, les membres du gouvernement. Donc finalement, peut-être qu'instaurer un état islamique serait la solution face à la corruption, à la crise économique, la crise du logement ou celle du chômage. Du moins, c'est ce que pensent ceux qui en ont marre du gouvernement. C'est ce que pensent les membres et les partisans du FIS.
حنا دائما حنايا رافضين الشاذلي يعني في كل وقت راحنا نقولوا له دير استفتاء، دير استفتاء للشعب، واذا حبك الشعب اقعد، واذا ما حبكش الشعب يا خويا وعلاش هذه الفوضى هذه؟
وين راه جماعتي؟ حنايا ما عبيناش الرئيس، ما عبيناش، دايما يضربوا فينا، ما عبيناش سيدي، يبعدنا يا سيدي الرئيس هذا.
دولة إسلامية.
Après les émeutes de 88, le gouvernement va avoir pour but de renouer avec le peuple. Donc il propose de faire changer la constitution et de passer au multipartisme. Rappelez-vous, le gouvernement impose un seul parti politique, donc qui était le FLN. Cette fois-ci, on va créer plusieurs partis politiques au pouvoir. Cette nouvelle constitution, votée par un référendum, va demander un régime parlementaire et donc des élections législatives. Le FIS sera donc légalisé en 1989 et plus de 40 partis politiques vont être créés. Certains n'ont même pas de programme politique. Et il est important de noter qu'au départ, le gouvernement n'accepte pas de parti politique basé sur la religion, mais il fermera les yeux face à la pression du FIS. Les dates des élections législatives sont fixées. Le premier tour a lieu le 26 décembre 1991 et le deuxième le 16 janvier 1992. Les résultats tombent et le gouvernement est littéralement stupéfait.
Le fait du jour, c'est la victoire des islamistes lors des élections locales en Algérie. Si l'on en croit les premières estimations, le Front islamique de salut l'emporterait dans la plupart des grandes villes.
Le FIS obtient 47,27% des voix, ce qui équivaut à 3 millions de votants. Et le FLN, parti politique de base unique, en obtient seulement 1 million. Ce qui fait que sur 430 sièges à l'Assemblée, le FIS en obtient 188, seulement sur le premier tour. Le gouvernement est en panique, alors que les partisans du FIS, eux, se réjouissent. Les membres du gouvernement vont commencer à avoir peur du deuxième tour des élections législatives. Le premier tour montre et prouve clairement qu'il y a une montée de l'islamisme en Algérie. Rappelez-vous, le deuxième tour doit avoir lieu le 16 janvier 1992. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Le but va être de les annuler. Mais comment est-ce qu'on va s'y prendre? On écoute Ali Haroun, ministre des Droits de l'Homme.
Alors quelles étaient les possibilités pour arrêter le processus électoral? Première possibilité, dire à l'armée stop, elle sort ses chars, elle dit allez, je ne reconnais pas, c'est le coup d'État clair. Deuxième possibilité, prévoir que le président de la République démissionne avant le deuxième tour. Pourquoi? Parce que la Constitution prévoit que en cas de démission du président ou de décès ou de vacance du pouvoir, on doit dans les 45 jours procéder aux élections présidentielles.
Vous l'aurez compris, si on veut annuler les élections législatives, il faut se débarrasser du président. Donc sous les conseils des généraux, le président Chadli Ben Djedid va démissionner. L'Algérie se retrouve sans président. C'est donc le Haut Conseil de sécurité qui va prendre la main sur le pouvoir jusqu'à temps d'en trouver un nouveau. Pendant ce temps-là, Ali Belhadj et Abassi Madani vont être emprisonnés. Leurs discours sont jugés beaucoup trop violents. Mais les prêches continuent et ils sont assurés par le fils de Ali Belhadj, à peine âgé de 7 ans. Très vite va se former deux camps. D'un côté, on va voir le gouvernement avec l'armée et de l'autre, les membres et les partisans du FIS qui continuent à demander un État islamique et qui continuent à gagner du terrain. Côté gouvernement, l'urgence va être de trouver un président pour apaiser les tensions. Et un président qui a un minimum de légitimité auprès du peuple algérien. C'est là où Ali Haroun, membre du Haut Comité d'État et ministre des Droits de l'Homme, va faire appel à Mohamed Boudjaf.
Un soir, vers 11h, minuit, nous sommes à quatre, nous discutons, et puis je dis à Belkaïd, j'ai dit, mais écoute, et si on demandait à Boudjaf de venir ? Belkaïd me dit, bien sûr, ce serait merveilleux, mais tu ne vas pas accepter.
Mohamed Boudjaf est l'un des fondateurs du FLN. Il est exilé au Maroc depuis 30 ans et seulement observateur de ce qu'il se passe en Algérie. Mais il va accepter et va devenir chef d'État le 16 janvier 1992. Boudjaf va très vite devenir un symbole d'espoir. Il va avoir la volonté de remettre de l'ordre dans la société algérienne. Certains disent que son but n'était pas de se débarrasser des islamistes. Et pourtant, il finira par en parler dans ses discours politiques et mettre en place des camps d'internement dans le Sahara, où les islamistes y seront envoyés. Certains y passeront des mois, voire des années, sans même revoir leur famille. L'une des missions de Boudjaf était également d'en finir avec la corruption. Bref, il avait énormément de charges sur les épaules et pouvait facilement se faire des ennemis. En mars 1992, le FIS, Front Islamique du Salut, va être dissous par le tribunal administratif d'Alger. Donc d'une certaine manière, l'Algérie pense repartir de zéro et pense se débarrasser des islamistes. Sauf que ce n'est pas le cas.
احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم والدين تاع الاسلام.
Le 29 juin 1992, alors que Mohamed Boudjaf donne une conférence dans la ville de Annaba, il est assassiné. Le président prend deux balles dans la tête et une dans le dos. C'en est fini pour le président de l'espoir. Son assassin n'est autre qu'un membre de la garde présidentielle. L'homme s'appelle Lembarak Boumarafi. Il est reconnu comme étant un sympathisant du fils. Le mandat de Boudjaf n'aura duré que 6 mois. D'une certaine manière, la mort de Boudjaf marque le début de la guerre civile. C'est pile à ce moment-là que plusieurs groupes terroristes vont se former. En premier, on va retrouver le MIA. Le MIA, c'est le mouvement islamique armé. Eux vont être basés dans les montagnes. Ce groupe finira par s'associer avec d'autres petits groupes pour créer l'AIS, donc l'Armée islamique du salut. Et de l'autre côté, on va retrouver le GIA, le groupe islamique armé, qui lui agit dans les villes. Au final, on doit juste retenir le GIA et l'AIS. Les deux ont le même objectif, établir un État islamique, mais n'ont pas les mêmes chefs et pas les mêmes financements. Du coup, dès 92, les attaques terroristes vont commencer à se multiplier. Le GIA, l'AIS s'attaquent aux forces de l'ordre, aux convois militaires, à l'armée, au gouvernement, aux chanteurs, Cheb Hasni, Matou Blounès, mais pas que. Les journalistes, les philosophes, les acteurs, les artistes, et j'en passe. Certaines attaques terroristes vont avoir lieu dans des espaces publics, comme l'attentat à l'aéroport Houari Boumedjene à Alger le 26 août 1992. Il aura fait 9 morts et 128 blessés. Il est signé par le GIA. En Algérie, les membres des groupes terroristes vont se mettre à surveiller de près les gens. Toute personne travaillant de près ou de loin avec le gouvernement devient une cible, comme la police par exemple. Donc on s'introduit dans les maisons, on y arrache les photos collées au mur, on casse les cassettes de musique, on agresse les hommes, les femmes, surtout les femmes qui ne portent pas le voile, bref, tout ce qui est contraire à la religion. Au fur et à mesure, les terroristes ont commencé à se rendre de l'autre côté de la Méditerranée. Le 24 décembre 1994, un avion de la compagnie Air France est détourné. Une prise d'otage a lieu par 4 membres du GIA. L'avion décolle d'Alger pour Paris, mais finit par s'arrêter à Marseille, là où la prise d'otage sera détournée par le GIGN. Le 25 juillet 1995, un an plus tard, un attentat a lieu à la gare de Saint-Michel du RERB. Il fait 8 morts et 128 blessés. Il est signé par le GIA. D'autres attentats et massacres vont avoir lieu en Algérie, et cette fois-ci, on s'attaque à d'autres religions, comme l'assassinat des 7 moines de Tibérine. Ils sont d'abord enlevés, séquestrés, puis tués. On ne retrouvera leur tête que quelques semaines plus tard. Encore une fois, l'assassinat est signé par le GIA. Alors vous devez vous demander, que fait le gouvernement ? Après la mort de Boudjaf, on a eu Ali Kafi comme chef d'État de 92 à 94, et va lui succéder Lyamin Zeroual qui va être élu par la population avec 61% des voix. Lyamin Zeroual va être président de 94 à 99. Durant son mandat, le gouvernement va mener une sorte de dialogue avec les islamistes, sauf que ça ne va pas marcher, et Zeroual va tout simplement rompre ce dialogue et passer à une vitesse supérieure. On passe à l'éradication des groupes terroristes. Bon, l'éradication des groupes terroristes va pas vraiment fonctionner. En 1997, le nombre de massacres va clairement augmenter et les actes commis par le GIA vont être de plus en plus barbares. Le GIA va donc cibler plusieurs villes et villages qui ont voté pour le fils lors des élections législatives, ce qui n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on attaquerait une ville qui elle-même souhaite un État islamique? Et ça, ça va laisser place à énormément d'incompréhensions et des théories. Mais on y reviendra plus tard. Le plus connu est le massacre de Bent Talha. Le GIA y fait 400 victimes, des hommes, des femmes, des enfants. Tous attaqués dans la nuit du 22 au 23 septembre 1997. S'ensuit le massacre de Raïs, qui tombe dans la nuit du 28 au 29 août. Le GIA y fait également 400 victimes. On y tue des hommes, des femmes, des enfants et même des animaux.
انا جدي خالي خالتي خوالي ولاد خوالي ولاد خوالي خاوتي يتربوا معانا حنايا راحوا دوك قولي شكون يبقى شكون يبقى حتى واحد.
La même année auront lieu d'autres massacres dans les villes de Beni Messous, Sidi Moussa et Rélizane. En 97, on compte plus de 1000 personnes tuées par les terroristes. C'est énorme. Et c'est la goutte de trop. Donc l'AIS, l'armée islamique du salut, va opter pour un cessez-le-feu avec le gouvernement. Mais le GIA, beaucoup plus tenace, va continuer. Alors vous devez vous demander, qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement? Les tensions au sein du gouvernement vont s'amplifier. Au point où le président actuel, donc Lamine Zeroual, va écourter son mandat qui est censé se terminer en 2000 et faire avancer les élections présidentielles en 99. Donc en gros, il démissionne. Mais avant qu'on parle du prochain président, on va se poser une question qui est plus qu'importante. Ici, notre question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des terroristes? Eh bien, on l'a compris. Dès le début, le fils veut imposer un État islamique. Très vite, le fils va monter en puissance et motiver les foules à penser que l'islam est la solution, que l'islam va régler tous les problèmes économiques du pays, qu'il va régler les problèmes de chômage, de logement, de corruption. Sauf que le fils est en train de laisser sa place à des groupes de personnes qui ont des idées beaucoup plus violentes, des idées beaucoup plus radicales et beaucoup plus dangereuses. Donc il suffit que vous ayez de mauvais rapports avec la police pour les voir comme des ennemis de l'islam. Et quiconque est un ennemi de l'islam représente une menace pour le futur de l'Algérie. Les terroristes se prennent pour les sauveurs du pays et se placent au même niveau que les moujahides de la guerre d'indépendance, que les combattants de la guerre d'indépendance. Sauf que les moujahides ne combattaient pas leur propre peuple, ils combattaient les colonisateurs, les Français. Là, les terroristes attaquent leur propre peuple. C'est les Algériens contre les Algériens, les terroristes contre les civils. Et à force, le peuple algérien va commencer à se fatiguer et ne supportera plus cette situation. Bon, on revient sur le gouvernement. Lamine Zeroual a annoncé sa démission, donc il faut avancer les élections présidentielles et l'Algérie va voir naître une nouvelle figure qui n'est d'autre que Abdelaziz Bouteflika, qui deviendra président en 1999. Bouteflika va jouer un rôle crucial dans la fin de la décennie noire parce que oui, on y arrive. En arrivant au pouvoir, il va tenter de restaurer la paix civile. Et en 1999, il fera voter une nouvelle loi par référendum qu'on appelle « Concorde civile ». Cette nouvelle loi est largement acceptée par le peuple algérien. En fait, le but, ça va être de revenir à la paix. Donc on fait une sorte d'exonération des poursuites pénales des terroristes, mais en échange, ils doivent descendre de leur maquis, donc de leur montagne, rendre leurs armes, se réinsérer dans la vie sociale et professionnelle, et bien sûr, le tout en abandonnant leurs activités terroristes. C'est une sorte d'amnistie. Donc ils sont amnistiés. On va revoter cette loi de concorde civile par référendum en 2005 et en 2006, sauf qu'en 2006, elle va déplaire à beaucoup de monde, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur, donc à l'international. Cette exonération des poursuites pénales va s'appliquer à tous ceux qui ont commis des crimes pendant la décennie noire. Donc difficile de tenir responsable quelqu'un, difficile de porter plainte contre qui que ce soit, étant donné qu'il est pardonné par la justice. À travers ce processus de restauration de la paix civile, certains vous parleront de taouba, donc de repentir, ou de rahma, de pardon envers les islamistes et les terroristes. D'une certaine manière, on veut et on souhaite pardonner aux égarés pour passer à autre chose. Mais cette loi, comme je vous l'ai dit, va créer énormément de polémiques. Comment est-ce qu'on peut pardonner à celui qui a tué un père, une mère, un fils, une fille, une famille tout entière? Les victimes de la décennie noire ont du mal à accepter cette loi de concorde civile. Et c'est le cas de cette jeune femme qui a vu son grand-père mourir devant ses yeux lors du massacre de Raïs. Elle a du mal à pardonner et du mal à accepter le fait qu'ils vont être réinsérés dans la vie sociale et professionnelle.
Je تفرقش معايا هذه ما كاش منها ما صراتش. انا ضدها هذه كاع ضد هذا. كون جات لي وجات لواحد اخر انه عندهم صح شويه من الفهمه والله العظيم ايش معايا صح نسمح ما نقتلش. قال ما كاش العنف وما كاش الكتيله ما نقتلش سمع ليش يروح يشوف البلاد واحد اخرى ديال هاي بلاد ربي واسع.
Et de l'autre côté, on va retrouver les mamans qui n'ont plus jamais revu leur fils, soit tués par les terroristes, engagés auprès de l'armée ou membres du GLD, groupe de légitime défense. Bref, elles en veulent énormément à Bouteflika. Finalement, les groupes terroristes ont tous été dissous. L'AIS a procédé à une amnistie graduelle sur 3 ans. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, ses membres se sont rendus. Elle fut entièrement dissoute en 2000. Le GIA, groupe beaucoup plus tenace, comme je vous l'ai dit, se sera dissous lors de la mort de Antar Zouabri, qui est le chef du groupe armé, donc en 2002, 2 ans plus tard. Le seul groupe qui a persisté est le GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui lui est basé en Kabylie. Avant de conclure cet épisode, il faut tout de même aborder un point important, et en vrai c'est un peu mon passage préféré. La décennie noire a laissé derrière elle énormément d'incompréhensions, de doutes et de questions sans réponse, ce qui a mené à plusieurs théories. La première théorie est selon laquelle l'armée aurait participé au massacre. Je vous explique. On rapporte que les casernes des militaires étaient toujours très proches des villes et des villages attaqués par les groupes terroristes. Et malgré cela, l'armée n'intervenait jamais lors des massacres. Conclusion, est-ce que ces actes étaient orchestrés par l'armée? On écoute Khaled Nazar.
Quand ils attaquent, ils éteignent la lumière. Vous avez une situation apocalyptique à l'intérieur. Vous avez des gens qui courent dans tous les sens. Comment voulez-vous intervenir? Vous allez, en intervenant, vous allez créer plus de dégâts. Le seul moyen est militairement, et poser la question à n'importe quel militaire, il vous le dira. On ne peut que le défendre par le chemin de retour, attendre des embuscades, ou bien par la présence des feux pour leur faire peur.
D'autres théories ont vu le jour, comme le fait que le GIA était peut-être infiltré par l'armée, ou par la police secrète. On se dit également que l'armée aurait laissé faire certains massacres par pure vengeance. En gros, pourquoi est-ce que l'armée irait s'embêter à sauver des civils qui ont eux-mêmes voté pour le fils lors des élections législatives? C'est le cas du massacre de Bentalha ou de Raïs par exemple. C'est des villes qui ont voté pour le fils, donc qui clairement voulaient un État islamique. Dernière théorie, on accuse le gouvernement d'être complice avec les terroristes, vu que l'État a mis énormément de temps à livrer des armes aux civils pour qu'ils puissent se défendre face au GIA et à l'AIS. Bon, malgré les multiples tentatives de réconciliation civile, difficile de savoir si le peuple algérien est réellement passé à autre chose, si le cœur des Algériens s'est apaisé et qu'il n'est plus plein de haine et de peine. Difficile de savoir si le pays s'est amélioré, s'il a réglé ses problèmes de corruption, de chômage ou encore d'économie. Est-ce que la restauration civile aura permis aux gens de passer à autre chose? Est-ce que la décennie noire aura permis aux membres du gouvernement de se rendre compte des réels problèmes au sein de la société algérienne? Ou est-ce que tout ça n'aura servi à rien et qu'on revient à la case de départ? Certains vous diront oui, d'autres un peu plus pessimistes vous diront que non. Rien n'a changé en Algérie. De nos jours, on ne parle plus trop de la décennie noire. On en a honte et on en est peu fiers. Ou peut-être qu'il est juste trop douloureux d'en parler. Et croyez-moi, j'en ai fait les frais. En préparant cet épisode, il a été difficile pour moi de questionner mes proches, mes parents, mes grands-parents. Je repense à mon père, qui me dit qu'il a dû prendre l'avion 2 jours après l'attentat à l'aéroport Houari Boumediene, et qu'en marchant dans les couloirs, il constatait le sang qui restait sur le plafond, sur les murs. Ou à ma mère qui me disait que chaque matin, elle se réveillait avec une mauvaise nouvelle, que chaque nuit, elle entendait des coups de feu. Les images ne sont pas toujours faciles à regarder, ni à montrer. Et quand on creuse un petit peu, quand on discute avec les victimes de la décennie noire, quand on discute avec ceux qui l'ont vécu, on se rend vite compte que chacun a sa propre version de l'histoire. Chacun accuse qui il veut. Et de l'autre côté, certains se taisent, ne parlent pas trop, peut-être par peur d'être confrontés à des émotions enfouies depuis des années. Je crois que la décennie noire marquera à tout jamais le peuple algérien. Et quand bien même on n'en parle pas, elle réside dans notre histoire, dans nos gènes et dans nos traumatismes. Je crois que j'ai fait mon devoir de mémoire.
يا ريت الجافيين يا ريت الجافيين طلوا عن حالي.